l'Esprit, louez le Seigneur, c'est merveilleux. Ces versets vont très bien avec ce qui m'a occupé ces derniers jours, ces dernières semaines, et aussi un passage qui est sur le résumé, au point A, Matthieu 22, verset 29. Les Sadducéens étaient venus vers Jésus et ne comprenaient rien parce qu'ils étaient dans l'homme naturel. Ils n'avaient pas de révélation par l'Esprit. Et ils pensaient aussi être très intelligents. Et alors ils viennent avec un exemple pour que le Seigneur donne son avis. Mais le Seigneur leur dit après, verset 29, Matthieu 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur, ou une autre traduction dit, vous êtes trompé, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Cela m'a vraiment occupé. Ce sont des hommes religieux qui vivaient à cette époque, et je n'oserais pas dire qu'ils ne lisaient pas la parole. Certainement, ils ont lu l'Écriture. Et ils ont extérieurement connu l'Écriture. Mais le Seigneur leur dit, vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas l'Écriture. Ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ces hommes ont lu l'Écriture juste avec leur intelligence. Et ils ont déduit des Écritures ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Et ça, c'est aussi un problème parfois chez les croyants, que nous lisons les Écritures avec nos propres lunettes, nos expériences, avec notre capacité à comprendre qu'est-ce qui va avec qu'est-ce qui nous convient. Et c'est pourquoi ils ne connaissaient pas l'Écriture et ni la puissance de Dieu. Et là, il y avait aussi, cela évoquait aussi un autre point, c'est qu'en lui, il y a la puissance de Dieu. C'est en lui qu'il y avait la puissance de Dieu. Lui, il avait la puissance de Dieu. Il a enseigné avec autorité, avec la puissance. Et eux ne connaissaient pas l'Écriture, ni le connaissaient lui. Et je voudrais avoir les deux. Je voudrais connaître l'Écriture. Je voudrais être libre de tout ce qui pourrait m'empêcher d'aller plus profondément dans la parole. Et encore plus, je voudrais connaître ce merveilleux Seigneur. Et c'est vraiment mon désir pour cette conférence. Et pour la suite de ma vie, je voudrais le connaître. Et c'est pourquoi il est bon d'être comme Marie à ses pieds. Ce matin, nous pouvons nous être assis à ses pieds. Je suis désolé d'être debout. Regardez-moi comme assis à ses pieds. Pour l'écouter et nous montrer ce qu'il veut nous dire, ce qu'il veut nous révéler. Il est l'Esprit. J'en viens maintenant au point B de notre résumé. L'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il y a un temps où Jésus n'était pas là, et il y a un temps où il n'y avait pas encore l'Esprit. Il est dû dans Galates 4, c'est quand les temps étaient accomplis que Dieu a envoyé son Fils. Avant, il n'était pas encore là, et rien ne pouvait remplacer son Fils. Aucun conducteur à l'époque, parmi les Juifs, personne. Le Fils devait venir. Et de la même manière, c'est la même chose avec l'Esprit. Rien ne peut remplacer l'Esprit. Et j'espère que c'est un point. Que nous puissions voir que rien ne peut remplacer cet esprit. Le Seigneur dit dans Jean 7, et nous l'avons lu, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il parlait de l'esprit. Ceci doit nous donner une première impression de comment nous devons connaître l'esprit, dans le sens que nous le prenons, nous le buvions. Non. En réfléchissant, en discutant sur comment il est, mais d'abord en le prenant et en nous, et alors nous allons le connaître. Il est vivant et il a une œuvre en nous, il fait une œuvre, il a un effet en nous. Louez le Seigneur.
1 Corinthiens 15, 45, je mache diesen Anfang.
Je commence assez rapidement parce que les versets sont connus par la majorité.
1 Corinthiens 15, 45
Et en fait, dans Jean 1 Corinthiens 15, 45 est la suite de Jean 7. Dans Jean 7, il est dit que l'Esprit n'était pas encore, et dans 1 Corinthiens 15, il est dit l'Esprit est là. Et pourquoi? Parce que le dernier Adam, dans 1 Corinthiens 15, 45, est devenu l'Esprit. Et c'est une suite à ce que nous avons vu hier soir. Hier soir, nous avons vu comment le premier homme a été créé, comment il est devenu une âme vivante. Et là, le verset insiste sur le dernier Adam, Jésus-Christ, qui est devenu un esprit vivifiant ou qui rend vivant, qui donne la vie. Et nous voulons considérer cet esprit. Et nous voulons le considérer par différents versets. Et je voudrais à cet endroit, à ce moment du témoigner, que je t'ai surpris combien la parole peut toucher. J'ai été touché par ces versets que j'ai marqués, que nous allons lire. J'ai été touché par la nature de Dieu, par sa gloire. Et je souhaite que nous puissions aussi être touchés par lui, par sa parole. J'ai commencé avec l'évangile de Matthieu et je ne peux que le conseiller. Prenez-vous une partie des Écritures et prenez-vous suffisamment de temps. Et puis après, occupez-vous, prenez du temps dans la parole, cherchez le Seigneur, cherchez sa face, cherchez à le voir. Si juste à lire la parole sans le Seigneur, c'est pas tant, mais en priant avec la parole et en mélangeant la foi, en mangeant, ceci va œuvrer quelque chose, et beaucoup d'entre nous peuvent témoigner de cela. Matthieu 1, 1. Je voudrais commencer avec ce verset. Et je voudrais vraiment dire que tous ces versets ne sont pas là pour apporter une définition ce qu'est le Seigneur, ce qu'est l'Esprit, mais ce sont des versets qui décrivent ce qu'est le Seigneur. Il y a très peu de définitions dans la Bible. Il n'y a pas de dogmatique. Ce n'est pas un livre d'enseignement. Mais la Bible décrit notre Dieu d'une manière si merveilleuse, de sorte que nous pouvons lire toute notre vie ce livre, que nous voyons toujours quelque chose de nouveau, que nous puissions toujours à nouveau être touchés par notre Dieu. Et par cette relation qu'il veut, qu'il a nouée avec nous et qu'il veut avoir avec nous et même rendre plus profonde, il est merveilleux. Avec, pour tous ces versets, il doit y avoir vraiment cet arrière-plan, le Seigneur est l'Esprit. Tout est dans l'Esprit. L'Esprit est merveilleux, nous l'avons chanté. Et c'est ici, c'est décrit pourquoi il est merveilleux. Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le Fils est devenu l'Esprit. Le premier point qui m'a touché, qui m'a interpellé, il est le Fils de David. Qui était David? Qui était David? Qu'est-ce que nous comprenons avec David? Oui, c'est un roi, je l'ai eu sur des lèvres. C'était le roi, et encore. Un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Un berger. Ça m'a aussi touché. C'était un berger instruit, je dirais. C'est merveilleux. L'Esprit aujourd'hui est ce berger qui a été instruit. Le Seigneur l'a appris, s'est exercé. Je ne veux pas dire qu'il ne pouvait pas. Et il l'a pratiqué aussi. Il l'a pratiqué avec ses disciples. C'était un petit groupe d'hommes qui avaient tant besoin d'un berger. Les brebis parfois se dispersaient, s'arrêtaient ou allaient par-ci, par-là, et les évangiles nous montrent, mais qu'il était le berger. Et l'Esprit aujourd'hui a vraiment la nature d'un berger. Le Seigneur n'a pas juste conduit ses disciples, il a aussi dit, quand il a vu cette foule, toute la foule d'Israël là-bas, qui eux étaient orgueilleux d'être fiers d'être le peuple choisi de Dieu. Mais le Seigneur était si triste, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Ils ont même rejeté le berger qui est venu vers eux. Et je désirerais vraiment que nous, aujourd'hui, que nous ne rejetions pas, nous ne remplacions pas ce berger dans notre vie d'église. Je voudrais encore lire des versets dans Ézéchiel. Ézéchiel 34, verset 23. Et Dieu dit, comme une promesse, j'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Pour le peuple d'Israël, cette parole doit encore s'accomplir, mais pour nous aujourd'hui, en tant que l'Esprit, il est ce berger. Et je dirais encore une fois, nous ne devons pas remplacer ce berger. Même si quelqu'un est doué parmi nous, si quelqu'un nous est une grande aide, que nous ne remplacions pas ce Seigneur, ne remplacions pas l'Esprit. Le Seigneur seul sait quel pâturage ces saints ont besoin. Moi, je sais ce que j'ai vu, ce qui m'a touché, mais l'Esprit sonde toutes choses. L'Esprit connaît les besoins de chacun. Même un besoin qui souvent n'est pas exprimé, le plus souvent, il n'est pas exprimé. Mais l'Esprit connaît le besoin. Et l'Esprit a le désir à vraiment ce désir de donner ce besoin qui correspond. Et nous pouvons prier, « Oh Seigneur, donne aux saints. » Tu as aussi le droit de dire, « Donne-moi. » L'Esprit est en nous. Et c'est pourquoi nous avons ce désir en nous aussi que les saints trouvent ces pâturages. Plus que l'Esprit gagne en nous de la place et touche notre... Plus nous avons cette pensée de nous oublier, de ne pas juste penser moi, mais vraiment, mais d'avoir la pensée de l'Esprit, Seigneur, ton troupeau. Et cette prière n'est pas juste une prière pour les anciens. C'est vraiment un désir, un fardeau de l'Esprit. Cet Esprit est en nous aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi toutes les demandes, les prières sont en Esprit, sont ses demandes. Et il va les œuvrer en nous. Et c'est l'œuvre de transformation. Et nous coopérons activement avec lui. Et même nous prions activement. Et nous prenons ce désir en nous aussi. Et parfois nous pensons, oh, qu'est-ce qu'il y a maintenant encore? Et nous nous demandons, qu'est-ce que nous pouvons faire afin que celui-ci change? C'est probablement notre demande. L'Esprit, qu'est-ce qu'il a comme désir? Si quelque chose nous dérange chez les frères et sœurs, cherchons le désir de l'Esprit. Qu'est-ce que tu veux œuvrer? Donne-nous un sentiment, comment nous devons réagir dans cette situation. Qui est plus sage que l'Esprit? Personne entre nous, même si nous sommes 20, 30, 40 ans dans la vie de l'Église, personne ne remplace l'Esprit. Et l'Esprit connaît aussi les dangers pour le troupeau. Je peux le confirmer, et nous pouvons vraiment passer ces paroles dans notre cœur, comme Marie qui gardait les choses dans son cœur. Et nous devons ainsi avoir cette attitude vis-à-vis de la parole, de la repasser dans notre cœur. Alors maintenant, dans Matthieu 1, parce que je voulais rester, je pensais que je vais rester dans ce chapitre d'abord, parce qu'il y a tant de choses, au verset 6. Donc, Matthieu 1, verset 6.
Ah. Christus. Vers 16 habe ich mich verschrieben vielleicht. Genau, 16 hätte ich schreiben sollen.
J'aurais dû écrire 16 et pas 6.
Von welcher, nämlich von Maria, Jesus geboren wurde,
Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ, le Messie loin, celui qui était attendu. Qui a été loin parmi le peuple d'Israël? Qui était loin parmi le peuple d'Israël? D'abord les sacrificateurs et après les rois. Et Jésus, Christ est roi et sacrificateur. Hébreux 2, verset 17. Il est dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés et du peuple, des péchés du peuple. Avant son ascension au trône, il était un sacrificateur compatissant, fidèle, pour expier les péchés du peuple. Pour Dieu, c'était vraiment très important que le peuple soit réconcilié avec lui. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il voulait donner sa vie comme offrande pour le péché. Parce que pour nous, car nous sommes tous injustes devant Dieu. Personne ne peut venir devant Dieu sans cette réconciliation. Et c'était vraiment ce qui est arrivé à la croix. Et je voudrais aussi insister sur un autre point. Je voudrais insister que cette attitude aujourd'hui est dans l'esprit. Le Seigneur est l'esprit. Est-ce que le Seigneur n'a plus envie à laisser de côté ce désir de réconciliation? Oui, le Seigneur a dit à la croix, c'est accompli. Mais aujourd'hui, dans l'esprit, il y a ce désir aussi de réconciliation, de pardon. Dans Matthieu 5, ou chapitre 6 plutôt. Là où il dit, si tu, c'est 5:23. Matthieu 5:23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ce verset m'a souvent touché. Ce verset est valable, pas juste jusqu'aujourd'hui, mais pour toujours. L'Esprit voudrait toujours à nouveau œuvrer une réconciliation. Là, je ne parle pas du salut, de la condamnation éternelle, mais que nous soyons réconciliés. Si nous ne sommes pas réconciliés les uns avec les autres, comment pouvons-nous ne pas louer? Comment pouvons-nous louer le Seigneur si nous ne sommes pas réconciliés? Le Seigneur voit notre cœur. C'est un grand problème si nous avons dans notre cœur quelque chose contre un frère. L'Esprit voudrait toujours à nouveau œuvrer cela en nous. Et le Seigneur nous a aussi enseigné ainsi. Il nous rappelle toujours quand nous demandons pardon. Il nous a dit de prier, pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est vraiment éternel cela. Dieu est si sage. Il nous aime. Il veut nous garder. Il veut pas que nous soyons un obstacle. Nous avons peut-être un argument que quelqu'un a fait quelque chose de faux. Mais il n'en va pas de ça, il en va de la réconciliation, afin que nous n'ayons rien contre un frère, contre une sœur. Le Seigneur, l'Esprit, a ce désir que nous nous réconcilions toujours, et naturellement ça commence dans la famille, entre frères et sœurs. Et ne pense pas, ne pense pas que l'esprit ne va pas réaliser quand il y a quelque chose. Nous pouvons jouer le jeu devant les gens, devant les autres. Nous avons des masques de prêt, et puis dans cette situation, ce masque, dans cette situation, ce sourire. Mais qu'en est-il des cœurs? Le Seigneur Esprit sonde les cœurs. Il veut nous aider. La réconciliation nous aide. La réconciliation nous libère. Et c'est ça qu'est le Seigneur Esprit aujourd'hui. Et encore un verset de Matthieu 1, 18. Oui. Deuxième partie, du verset. Marie, sa mère, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et ça, c'est un aspect important du Seigneur Jésus. Et dans Lucain, il est parlé du Saint. Il est vraiment saint. Et c'est pourquoi il veut nous sanctifier toujours à nouveau. L'Esprit a ce désir de nous sanctifier, pas juste superficiellement. Et là, j'ai pensé à cet exemple, même s'il ne va pas tout à fait, il ne convient pas tout à fait. J'avais un jour une montre avec un bracelet doré. Mais cette montre n'avait pas beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que c'était que du plaquage avec très peu d'or. Et dans tous les cas, en peu de temps, l'or était parti. Si nous avons juste un voile d'or, fais attention, ça ne durera pas longtemps. Et ce qui était... Là où il y avait cette protection en or qui s'était enlevée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de la corrosion, de la rouille. Si nous recouvrons juste d'or le vieil homme, je peux vous dire, c'est pas le chemin du Seigneur. Ça va peut-être briller devant les hommes. Et ça montre si nous voulons nous adapter, ou nous pensons nous devons être d'une telle manière ou d'une telle autre, il y a toujours le danger que ce n'est pas l'œuvre réelle du Seigneur. L'œuvre de l'Esprit, mais va en profondeur. Et ça commence de l'intérieur. Et puis après, ça va vers l'extérieur. Et souvent, nous commençons de l'extérieur et nous oublions l'intérieur parce que nous ne pouvons pas nous changer. Mais l'Esprit le peut, car il est saint. Et après, j'ai encore des versets de l'Ancien Testament dans Michée 5. Où ressort un aspect totalement différent. Michée 5, verset 1. Il est parlé, en fait, du Messie. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Et c'est notre Seigneur et c'est l'Esprit. Et dans l'Esprit. Dans l'esprit, nous n'avons pas juste le Seigneur Jésus comme il est dans les évangiles, décrit de manière superficielle, mais nous avons le Fils qui est là depuis l'éternité. Il est l'Esprit. Et je voudrais encore confirmer avec des versets dans Ésaïe 9. Dans Ésaïe 9, verset 5, un verset très connu. Verset très connu, Ésaïe 9, verset 5.
Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et aujourd'hui, le Seigneur, l'Esprit veut avoir la domination, l'autorité dans l'Église. On l'appellera admirable, conseiller. Et en allemand, c'est sans virgule. Le Seigneur aujourd'hui est l'admirable conseiller. Êtes-vous parfois son conseil? Sans solution, je le suis souvent. Mais il y en a un qui ne l'est jamais. Il est un conseiller admirable. C'est le Seigneur Esprit. Et puis, après, il est dit, Père éternel, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et c'est pourquoi nous voyons que dans le Seigneur Esprit, le Père est aussi présent. Dans Jean 16, le Seigneur dit aussi, dans Jean 16, il dit qu'il va prendre de ce qui est à moi, car tout ce qui est à moi est bien du Père, est au Père. Dans l'Esprit, nous avons aussi quelque part le Père. Ça ne se définit pas selon un enseignement. Mais nous pouvons en jouir, l'apprécier. Et nous pouvons remercier, louer notre Père pour cet esprit si riche. Et il est aussi dit qu'il est le prince de paix. C'est aussi un point important pour notre vie d'Église, et ça rejoint ce que j'ai dit avant. Qu'est-ce qu'une vie d'Église sans la paix? Nous sommes là dans nous sommes assis dans une réunion et nous n'avons pas la paix. Et qu'est-ce que c'est comme vie d'Église? Il y a très peu de réalité de l'Esprit. Mais le Seigneur a promis que cet esprit, quand il serait là, nous conduira dans toute la réalité. Et j'espère que nous avons tous ce désir. Seigneur Esprit, conduis-nous, conduis-moi dans toute la réalité, aussi à Stuttgart et à Pforzheim. Nous avons tous besoin d'être conduits dans toute cette réalité. Et je voudrais encore lire un verset dans Matthieu. Et rappelez-vous, ce sont tous des descriptions de cet esprit merveilleux. Dans Matthieu 1, verset
21.
Et là, il nous est parlé du nom du Messie. Ce n'était pas indifférent de quel nom il serait appelé. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le nom de Jésus, nous avons le salut. Ce nom veut dire sauveur, et quand nous l'invoquons aujourd'hui, nous invoquons notre Sauveur, qu'importe quelle soit la situation. Là, il est question du péché, mais il est le Sauveur dans toute chose. Et je dois confesser, j'ai besoin de beaucoup de salut. Chaque jour.
Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen. Sie liegen mir auf der Zunge, aber wir haben alle Beispiele.
Je pourrais dire des choses, je les ai sur la langue, des exemples où nous avons besoin de salut. Ce point est profond. Il sauvera son peuple de ses péchés. Là, il est parlé aussi, parlé du salut, de la servitude, de l'esclavage. Le péché, c'est toujours un esclavage. Nous étions esclaves du péché, nous dit Paul. Le Seigneur Esprit veut nous libérer de toute servitude aujourd'hui. Il y a peu de temps, j'ai entendu un compte-rendu d'Allemagne qui disait qu'il y a des millions d'Allemands qui sont esclaves, dépendants de l'alcool, de la cigarette, des médicaments, des jeux, tant et tant de millions à chaque fois, et d'autres addictions encore. Il y a tant d'esclavage, d'addiction. Mais nous ne devons pas penser que nous ne sommes pas concernés. Rappelez-vous de ce pharisien dans Luc 18 qui a prié, « Merci Seigneur que je ne suis pas comme ce pécheur à côté de moi. » Et quand nous entendons parler de ces addictions, oui, louez le Seigneur si nous sommes libres. Mais la servitude est souvent plus subtile. Parfois, c'est une servitude aussi de devoir encore dire quelque chose. Vous ne l'avez pas déjà expérimenté? Comme on dit en allemand, tu dois toujours avoir le dernier mot. C'est bizarre qu'on dise « tu dois toujours avoir le dernier mot ». Pourquoi ne disons-nous pas « je dois avoir le dernier mot » ? C'est étonnant. Celui qui le dit, c'est étonnant, le dit à l'autre. Il dit à l'autre, tu dois toujours avoir le dernier mot, mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est mystérieux parfois ce que nous disons. Ça peut aussi être un esclavage. Ou des pensées dont nous ne pouvons pas nous libérer au sujet de quelqu'un. Des sentiments dont nous ne pouvons pas nous libérer. Des peurs. Il y a tant de choses. Il y a tant de choses pour lesquelles nous avons besoin de libération. Et où nous pouvons être libérés aussi par le Seigneur Esprit. Parfois, acceptons volontiers une parole si c'est quelqu'un, et si c'est quelqu'un d'autre, il parle en vain parce que nous ne l'acceptons pas. Parce que nous sommes alors sous la servitude, nous sommes dans l'esclavage, nous ne pouvons pas accepter quelque chose d'un frère. Je voulais juste dire que la servitude, l'esclavage a différents aspects. Et dans le Seigneur Esprit, il y a cet élément qui libère. Et qui est dans notre esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, ça signifie plus qu'il est là, mais là où le Seigneur peut entrer, là où il est accepté, là il y a la liberté. Ça c'est merveilleux. Il y a encore d'autres versets, mais je crois que je vais rester à ces versets. Dans Matthieu 2, verset 6, il est dit qu'il est le prince de Judas. Matthieu 2, verset 6, deuxième partie. Car de toi sortira un chef ou un conducteur qui paidera Israël. Nous avons besoin d'un chef qui nous conduit, qui marche devant nous. Et en fait, les hommes cherchent toujours quelqu'un qui marche devant eux. Et c'est aussi un danger que nous nous attachions à quelqu'un qui semble connaître le chemin. Peut-être il le connaît. L'esprit le connaît de toute manière. Que moi je connaisse le chemin, soyez prudents, s'il vous plaît. L'esprit doit être notre conducteur aujourd'hui. L'esprit doit nous conduire aujourd'hui. Et pour aller de l'avant, c'est une conduite que nous devons apprendre à connaître dans notre vie quotidienne. Et c'est pourquoi nous avons reçu l'Esprit. Reste auprès de l'Esprit. Suivons l'Esprit, le Seigneur Esprit. Et encore un autre aspect dans Ésaïe 42, verset 1. Ces chapitres de la quarantaine là dans Ésaïe, je pourrais les lire toutes les semaines. Donc, Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Et ainsi de suite. Dans l'esprit, il y a des qualités qui sont associées que nous ne pouvons pas associer en nous les hommes. Soit nous dominons ou nous servons. Et si nous servons, nous insistons uniquement sur le service et nous ne dominons pas. Où nous dominons et nous oublions le service. Mais notre Seigneur Esprit, il peut dominer et il peut servir. Et dans l'Esprit, il y a aussi demande pour le service. L'Esprit sert. Il sert les saints. Servir les saints, c'est le désir de l'Esprit. Pas d'être admiré par les saints, mais de servir les saints. Et il y a une qualité encore supplémentaire qui nous est donnée au verset 4. C'est l'endurance. Il est dit, il ne se découragera point et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Dans la traduction d'Arby en allemand, c'est « il ne s'écroulera pas ». Ça m'a parlé. Il a de l'endurance, il ne se décourage pas. Nous nous décourageons rapidement quand quelque chose ne va pas. Quand quelqu'un ne se décourage pas, nous disons « il ne changera pas ». Est-ce que vous n'avez pas déjà fait cette expérience, tu l'apprendras jamais. C'est une phrase terrible. Si nous pensons que de frères et sœurs, en disant qu'ils ne penseront, que nous pensons, ils ne changeront jamais, désolé de le dire, mais c'est une pensée diabolique. Mais c'est parce que nous opposons au plan de Dieu qui veut nous transformer à son image. Il faut vraiment que j'enlève cette habitude en moi de penser cela. Dieu vraiment nous a destinés à être semblables à son Fils et il va le faire. Hier, quelqu'un a dit, en relation avec Luc 4, oui, quand le Seigneur a dit la parole s'accomplit, s'est accompli devant vos yeux. Tout ce qui a été écrit concernant son service terrestre avait été accompli. Et tout ce qui a été promis pour l'Église sera accompli par l'Esprit. Et le Seigneur a dit, ce ne sera pas par la force ni par puissance, mais par mon esprit. Et c'est là que nous avons cette promesse, cela va s'accomplir. non par la force ou la puissance, mais par l'Esprit. Et cet Esprit ne se décourage pas. Oui, j'ai écrit, semble-t-il, beaucoup de versets encore, je les ai écrits pour moi. Seigneur Jésus, je voudrais encore donner quelque chose. Vous, dans Matthieu 3:3, afin que vous puissiez méditer, lire ces versets. Matthieu 3:3. Il est parlé de Jean-Baptiste. Et deuxième partie. Donc Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Et maintenant, si nous lisons dans Ésaïe, dans Ésaïe 40, verset 3, auquel fait référence Matthieu 3:3, il y a quelque chose qui en ressort qui est assez extraordinaire. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Si nous lisons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3, nous pensons que Jean-Baptiste a préparé un chemin au Seigneur et c'est juste. Mais dans Ésaïe 40, il a préparé une route pour notre Dieu. Dans Ésaïe 40, verset 3, il est parlé du chemin de l'Éternel. L'Éternel, en fait, dans la Darby allemande, c'est le Seigneur en majuscule, mais en fait, c'est en remplacement du nom de Dieu, Yahvé. Parce que les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu, ils le remplaçaient par Seigneur. Et dans l'arabie allemande, ils l'ont mis en majuscule, donc Seigneur en majuscule, pour savoir que il est parlé, pour faire connaître qu'il est parlé du nom de Dieu, Yahvé. Et ça m'a touché ces temps quand je l'ai lu. Ce nom, et ce nom exprime aussi le fait que Dieu veut être un Dieu proche, miséricordieux, comme ça a été évoqué par un témoignage dans Exode 33. Dieu qui cherche la communion, la proximité avec l'homme. Et c'est à ce Dieu que Jean-Baptiste a préparé le chemin. Et aujourd'hui, il est encore plus proche que lorsqu'il a été, il était assis près des disciples. Aujourd'hui, il est en nous. Il ne peut pas être plus proche. Ça ne va pas. Ça ne va pas plus proche. Ce Dieu qui cherche la proximité, il est en nous. Et nous pouvons avoir de la communion avec lui. Et c'est le Seigneur Esprit. Croyez-vous pas qu'il est en mesure de bâtir l'Église? Certainement. C'est celui par qui toutes choses ont été faites. Toute l'ancienne création a été faite par lui. Rien n'a été fait sans lui, sans le Seigneur. Dans Hébreux 1, dans Jean 1, cela nous est dit. Et comment cela est dans la nouvelle création? C'est par mon esprit. Tout se passera par l'esprit du Seigneur. Rien dans la nouvelle création ne se passe sans l'esprit. Tout se passe par l'esprit. Avec nous, ensemble. Par le fait que nous lui fassions de la place. Qu'est-ce que le Seigneur cherche en nous de la place? Le point grand G, le point 2, le Seigneur cherche de la place dans notre cœur. Et j'ai placé ces deux versets ensemble, 2 Corinthiens 6 et Éphésiens 3, pour ceux, si vous voulez lire ces versets, que vous pouvez les lire cet après-midi si vous ne les avez pas lus. Paul dit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 6, votre cœur est devenu étroit. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis, premièrement, des frères et sœurs. C'était le contenu de ce passage. Votre cœur est devenu, en fait, étroit vis-à-vis de nous. Mais Paul dit, notre cœur s'est élargi. Pourquoi? Pourquoi d'un côté le cœur s'est élargi et de l'autre côté, le cœur de Paul s'est élargi et le cœur des Corinthiens est devenu étroit? Car le cœur de Paul était rempli de l'amour de l'Esprit. Il a dit, l'amour de Christ nous presse. Et son cœur était si large envers toutes les églises. Mais notre cœur de nature est étroit et toujours nouveau en danger de devenir étroit par notre cœur naturel. Un cœur qui était large peut de nouveau devenir étroit. Nous devons vraiment en faire attention. Et l'Esprit peut nous le montrer. Nous devons prendre aussi notre attitude de cœur vis-à-vis des saints comme un indicateur notre attitude vis-à-vis du Seigneur. Si notre cœur est étroit vis-à-vis des saints, c'est-à-dire avec des critiques, se sentir meilleur, savoir davantage, avoir plus expérimenté, être plus consacré. J'insiste un peu là-dessus. Si mon impression est ainsi, vis-à-vis de l'autre, alors mon cœur va se rétrécir vis-à-vis des autres. Et à la fin, ils n'ont plus de place dans mon cœur. Plus de place. Et alors, ce qui est grave, c'est que le Seigneur n'aura plus de place non plus. Et c'est de cela que le Seigneur Esprit veut nous sauver. Et le Seigneur Esprit nous le montre quand nous ne voulons plus être miséricordieux, les servir avec miséricorde. Alors, nous devons vraiment nous tourner, Seigneur Esprit, Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Car le Seigneur a un cœur pour les saints. Si vous voulez encore cet après-midi le lire, je ne le trouve pas là. Je vous conseille Ésaïe 40, en fait. Ouais, dans Ésaïe 40, il est parlé du berger. Il va prendre ses brebis dans ses bras. Il y a des frères et sœurs qu'il faut vraiment les prendre et les porter. Peut-être je suis aussi quelqu'un qui a besoin un jour de cela. C'est le désir de l'Esprit. Donc c'est Ésaïe 40, verset 11. Il prendra les agneaux dans ses bras. C'est ça l'Esprit qui porte ce qui est faible, qui protège. Et je voudrais terminer avec ce verset très connu.
Was macht er mit den Müden?
Et aussi, mais il n'a pas cité le verset. À la fin du chapitre, à ceux qui sont fatigués, il donne de nouvelles forces.
Der Zusammenhang ist, er ist der Schöpfer.
Et là, le lien, c'est vraiment avec le fait qu'il est le Créateur qui a tout fait. Ça, c'est ce qu'il dit au verset 27 et puis verset 28. Et après, il est dit au verset 29, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est le Dieu créateur qui nous donne la force. Vous savez, je n'ai pas besoin de force si j'en ai encore 95%. Mais j'ai besoin de force quand j'en ai plus. Il y a peu de temps, nous sommes montés au troisième étage à la salle de l'église à Pforzheim. Et puis il me disait, oh, je ne peux pas monter ces trois étages. Et je lui ai dit, tu peux. Et je lui ai dit, si nous pensons que nous ne pouvons plus, en fait, nous pouvons encore. Oui, il y a encore des forces, il y a encore des réserves. Mais parfois, le Seigneur vraiment nous amène au bout de nos forces naturelles. Et alors nous disons, j'ai plus de force. Et alors, je n'ai pas juste plus de force, mais je suis inconscient. En allemand, il y a un jeu de mots là-dessus. Mais il donne de nouvelles forces. Afin que nous marchions, nous courions et que nous ne nous fatiguions pas. Louez le Seigneur!